Donc nous nous retrouvons encore dans l'évangile de Marc, chapitre 12. Je vous rappelle que nous sommes dans la dernière semaine de la vie de notre Seigneur. Il est venu à Jérusalem avec éclat sur un âne au milieu des acclamations. Et il ne cache plus, en quelque sorte, son identité messianique. Il ne voile plus un peu. Il le proclame, il se proclame fils de Dieu ouvertement. Et pendant une semaine à Jérusalem, il est attaqué de toutes parts, mais vraiment de toutes parts. C'est étonnant. Dès qu'il s'annonce comme cela, les leaders religieux du pays, on voit des différents... on voyait en petits groupes souvent pour essayer de le piéger, de le perdre, de le faire périr sur une parole. Il y a beaucoup d'hostilité dans l'atmosphère. Il y a une tension. Ceux qui écoutent dans le temple, parce que tout cela c'est très public, doivent se dire parfois, ils le cherchent vraiment, ils le cherchent, Jésus. Et j'ai bien compati avec le sentiment de Clarisse tout à l'heure lorsqu'elle a dit que lorsqu'on parle avec les gens au sujet des choses de Dieu, on a bien l'impression souvent qu'on ne maîtrise rien. On ne sait pas ce qu'ils vont dire et on ne sait surtout pas si on saura répondre. Mais ce qui est extrêmement, complètement différent avec Jésus, c'est que tout de suite, avec une sagesse, avec une réponse qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il dise cela, il retourne la situation avec chaque groupe qui vient pour essayer de le faire mourir à cause d'une mauvaise parole. Et donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et toutes ces autres réponses que vous connaissez. Et maintenant, après toute une série ce jour dans le temple, la Bible nous dit au chapitre 12 et au verset 28 qu'un des scribes qui les avait entendus discuter, donc les autres qui essaient de piéger Jésus, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demandait « Quel est le premier de tous les commandements ?» Qui vient à Jésus cette fois? C'est un scribe, ça veut dire que c'est un théologien, disons. En fait, Matthieu nous dit un autre détail, c'est qu'il est lui aussi envoyé par un groupe de sadduciens qui veulent le piéger encore. Matthieu le dit comme ça. Mais il y a autre chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé celui-là? Je me demande bien. Parce que nous découvrons dans cette conversation, lorsque nous regardons cet homme, sa question et la manière dont il répond à Jésus, et Jésus qui le félicite, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, il y a quelque chose qui est en train de travailler dans cet homme. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient hostilement à Jésus. Il est touché, il a vu, dit le texte, il a vu comment Jésus a bien répondu aux Sadducéens. Et lorsque quelqu'un en qui Dieu travaille voit quelque chose qui est vrai et bien, il dit, peut-être tout ce qu'on a dit au sujet de ce Jésus, ce n'est pas complètement vrai. Il a peut-être ses préjugés, mais qui sont en train d'être effondrés, bousculés par ce que Jésus fait, Jésus dit. Donc il vient... Là, il y a un vrai questionnement. Cet homme veut vraiment savoir la réponse à cette question. Maintenant, deuxième point. Quelle est sa question et pourquoi celle-là? Alors, Marc nous dit qu'il est venu et qu'il a demandé quel est le premier de tous les commandements. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'à l'époque, les rabbins juifs avait depuis des générations un grand débat. Ce grand débat concernait ils avaient repéré 613 commandements dans la loi de l'Ancien Testament. Donc, il disait qu'il y avait donc 365 prohibitions, c'est-à-dire interdits, des commandements négatifs, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc il disait une prohibition pour chaque jour de l'année, 365. Et il disait qu'il y avait donc aussi 248 commandements positifs, des choses à faire. Et les rabbins disaient, ça fait un pour chaque membre du corps humain. Je sais pas, je savais pas que j'avais 248 membres dans mon corps. Peut-être il me manque un œil ou quelque chose, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disaient. Et vous pouvez un peu voir l'esprit du judaïsme rabbinique de l'époque. On aime couper les cheveux en quatre, même en cinq, et compter les choses et quel est. Et donc il y avait un débat et ils utilisaient les mots le plus lourd et le plus léger des commandements. Et quand vous regardez dans les écrits des rabbins de l'époque de Jésus, dans le premier siècle et avant, vous voyez qu'ils parlent de. Par exemple, souvent ils disaient que le commandement le plus léger de la loi de Dieu, c'était dans le livre de Deutéronome où Dieu a commandé que si vous allez vous tombez sur un nid d'oiseau et vous voulez tuer un oiseau pour le manger, vous pouvez tuer le bébé, l'enfant, mais vous ne pouvez pas tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez libérer la maman. D'accord? Vous ne pouvez pas ni tuer les deux. Ni tuer juste la maman, parce que si vous tuez la maman, qu'est-ce qui arrive au bébé? Vous avez tué le bébé aussi. C'est pas parce que le bébé va. Donc il y avait dans cette loi une sagesse, mais il disait ça c'est plus léger des commandements. Si tu violes celle-là, bon, cette loi, c'est pas trop grave, il disait. Bon, comme si quelques commandements de Dieu que ce soit puissent être légers. Mais en tout cas, c'est ce qu'il disait. Et il disait que le plus lourd, allez, commandement de Dieu envers nous, le plus lourd, en tout cas les rabbins disaient que c'était d'honorer son père et sa mère. Voilà. Et donc il y avait tout ce débat. Et donc nous devons nous demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que donc cela était important? Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, sans doute il y avait plus d'une chose, un facteur qui pousse un peuple, une religion à regarder les choses comme ça, mais il y avait sans doute ceci, entre autres. D'abord, ils avaient envie de savoir si deux commandements semblent entrer en conflit, lesquels doivent donner place à l'autre. C'est un de leurs soucis. Mais un facteur plus grand, je pense, c'était que ces Juifs regardaient la loi comme une échelle pour grimper vers Dieu. Si je suis assez obéissant, je vais arriver à me faire accepter par Dieu parce que j'ai gardé beaucoup de ses commandements. Mais si les commandements de Dieu vous sont donnés pour que vous puissiez arriver à Dieu à force de votre obéissance, il est très utile de savoir lesquels sont les plus lourds. Je vais me concentrer sur celle-là. N'est-ce pas? Je gagne plus de points. Donc si je viole l'oiseau, le truc de l'oiseau, c'est pas grave parce que là, j'ai gagné beaucoup ici. N'est-ce pas? Vous pouvez voir? Pourquoi il est important de savoir qu'est-ce qui est plus lourd? Est-ce que vous avez jamais été comme ça avec le Seigneur? Voilà. Bon, puisque j'ai fait ça bien hier, ça c'était très important, je me laisse un peu tricher ici aujourd'hui. En tout cas, c'était leur esprit. Je dois quand même vous dire que l'idée, chers amis, de commandements plus central et de commandements plus accessoires, c'est pas tout à fait le bon mot, mais en tout cas, commandements plus importants, plus fondamentaux et moins, ce n'est pas une idée complètement fausse. Parce que dans l'Ancien Testament lui-même, nous retrouvons cela. Je vous lis. 1 Samuel. Samuel dit, l'Éternel, il parle à Saül qui a désobéi à Dieu, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à la loi morale de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la loi rituelle. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est un peu la même chose que ce monsieur va dire lorsqu'il va répondre à Jésus. Oui, il est vrai qu'aimer le Seigneur de toute ta force, ça vaut mieux que tous les holocaustes et les sacrifices. Il est presque en train de citer 1 Samuel. Et Jésus le félicite. Je vous donne deux autres passages. Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, dit l'Éternel. Osée chapitre 6, et puis le proverbe 21:3, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Donc il y avait des choses qui étaient plus au fond de ce que Dieu veut de toi, veut de l'homme, et certaines choses qui étaient des lois rituelles, symboliques, qui avaient leur importance et leur but, mais un jour qui allait être laissé de côté, parce qu'on n'a plus ces rituels aujourd'hui. Ce qui montre qu'ils étaient moins au centre de la volonté de Dieu pour toi. Ok? Ça va? Maintenant. Selon Jésus, donc nous passons, voilà le scribe, voilà sa question, voilà le pourquoi, et nous voulons maintenant passer un moment ensemble à comprendre pour nous-mêmes comment est-ce que Jésus veut nous enseigner par rapport au plus grand commandement, qu'est-ce que Dieu veut de toi et de moi. Alors, nous lisons dans le texte que Jésus répondit donc au verset 29, « Voici le premier. » Donc, Jésus dit qu'il y a un premier. Et donc, il cite Deutéronome et puis il va citer Lévitique. Il cite deux passages de l'Ancien Testament, deux commandements. « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et ensuite, il dit, voici le second. Et Matthieu ajoute que Jésus avait dit, voilà le second qui est comme le premier. Il y a un même principe moral et spirituel derrière les deux. On ne peut pas les séparer. Il dit, voilà, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, donc Jésus nous alerte et nous avertit, nous aujourd'hui, que derrière tous les commandements de Dieu, s'il y en a 613 ou plus, derrière chaque commandement et tous les commandements, il y a un principe. Et la raison pour ces commandements, c'est de promouvoir ce principe. Et le principe, c'est aimer. Aimer ton Dieu et aimer votre prochain. Cela, nous pouvons comprendre si nous prenons quelques commandements, ne volez pas. Parce que quand vous volez quelque chose de quelqu'un, vous prenez ce qui est à lui. Est-ce que vous êtes en train de l'aimer ou de le haïr? Vous êtes en train de le haïr, de lui accorder aucune importance, de lui faire mal. Si vous mentez à quelqu'un, ne mentez pas, ne portez pas faux témoignage. Est-ce que vous êtes en train d'aimer la personne, de chercher son bien? Non. Et donc vous voyez, quand vous commettez l'adultère, vous prenez la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous aimez ce monsieur dont vous avez pris la femme? Est-ce que vous aimez les enfants, la famille que vous allez détruire comme ça? Et vous voyez que derrière chaque commandement, il y a le cœur de Dieu, le cœur plein d'amour qui cherche, qui veut le bien, qui veut bénir l'homme. Et Dieu qui nous dit, soyez comme moi. Regardez comme je suis dans ma loi, parce que la loi est un reflet du cœur de Dieu et de son amour. Et la loi nous dit, aime, aime, aime. Et Jésus nous alerte en mettant de côté tous les autres commandements, que essentiellement, toutes les 10 commandements et tous les commandements de Dieu, c'est juste une élaboration de notre devoir d'aimer comme Dieu aime. Maintenant, il faut que je vous dise qu'on a un gros problème avec ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut entendre bien des sermons et s'endormir là-dessus, parce que chaque fois que vous allez dans certaines églises, ils ont un seul sermon, c'est un peu « Aimer ton prochain comme toi-même », n'est-ce pas? Et là, je sais ce que ça va être. Mais une partie du problème, il y en a plusieurs, mais une partie du problème, c'est que la définition de l'amour est tellement fade et égoïste qu'aujourd'hui, que aime ton prochain ne fait pas tilt dans la pensée des gens. L'amour, c'est pas une indulgence. Oui, laissez faire les autres, soyons tolérants, ça c'est aimer, n'est-ce pas, pour le monde. Oh là là, c'est quelque chose de beaucoup plus gigant. Nous étions dans une étude biblique à Grenoble pendant des années, plus de 10 ans, avec des dames qui ont commencé pour la plupart d'entre elles en tant que non-chrétiens et qui sont venues étudier la Bible. Et l'une après l'autre se sont converties au travers des années. Mais après 2 ans, une dame qui n'avait jamais fréquenté d'église nous a dit, parce que, pardon, après quelques mois seulement, on était en train d'étudier Romains, et elle nous a dit un jour dans l'étude, mais moi je n'ai jamais péché de toute ma vie. Pourquoi est-ce que vous parlez du péché? Je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Vous voyez sa définition? Pécher contre quelqu'un, faire mon devoir envers vous, c'est ne pas vous faire de mal. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Mais écoutez, l'amour va beaucoup plus loin. Quel bien est-ce que tu as fait aux gens? Je me suis gardé dans mon coin. Je suis une femme bourgeoise. J'ai vécu ma bonne vie. Je ne suis pas trop occupé des autres. Mais je n'ai pas péché contre eux parce que je n'ai pas fait de mal. Oh là là. Et Jésus va nous donner quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus formidable, d'aimer, de chercher le bien, de vouloir le bien de quelqu'un comme mon bien. D'accord? Donc, mais ça c'est, je me dévance un peu. Je voulais juste vous dire que lorsque nous allons parler de l'amour, moi je veux, et vous voulez, la vraie définition de l'amour telle que Dieu nous donne. Et l'amour c'est quoi? L'amour c'est affection. L'amour c'est allégeance. C'est être lié à quelqu'un tenacement et garder ce lien, être loyal. L'amour, c'est vouloir le bien. Vraiment le vouloir. Dans mon cœur, je veux son bien. Je veux qu'il soit bien. Avec le vrai bien. N'est-ce pas? Et l'amour, c'est l'action. Quand on aime, on fait quelque chose. On ne peut pas ne pas faire quelque chose. Pour procurer le bien de Dieu, c'est-à-dire sa gloire, ou le bien de l'homme. D'accord? Affection, allégeance, vouloir le bien et action. Maintenant, avec cela, je voudrais regarder ces 2 commandements. Pardon. Je voudrais d'abord faire 2, et là, si vous suivez la feuille, je suis sur le point 3 à 1. Ça va? Ça vous donne le moment de rattraper, de souffler. Ok. Donc, nous devons, si Jésus est en train de nous dire vraiment garder la loi de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, c'est à la base aimer. Aimer Dieu et aimer mon prochain. Ça me dit quelque chose tout de suite. Et ça vous dit quelque chose. Ça nous dit que nous devons nous détourner du moralisme. Je veux vous décrire le moralisme. Le mot moralisme signifie que je veux faire ce qui est droit et bien, d'accord? Mais pas dans le bon but. C'est dans cela que les Juifs étaient tombés à l'époque. Lorsqu'on veut gagner la faveur de Dieu, on fait le bien, on sert Dieu, on prie, on jeûne, mais pourquoi? Pour Dieu? Parce qu'on aime Dieu? Non, c'est pour gagner le ciel pour moi, pour sauver ma peau, quoi, de l'enfer. Donc vous voyez le problème? Je peux faire beaucoup de choses. Et Martin Luther disait à un moment donné, il jeûnait, il était devenu moine, il priait, il confessait ses péchés pendant des heures chaque jour, il faisait plein de choses. Et un de ses collègues lui a dit à un moment donné, si tu aimes Dieu, fais ceci ou cela. Et Luther a dit, eh mais Dieu, je n'aime pas Dieu, je le hais. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça alors? Ça, c'est le moralisme. Je fais ce qui est bien, mais non pas pour l'autre. Je le fais pour moi-même. Nous sommes vraiment experts pour dépersonnaliser la loi. Et les Juifs avaient détaché la loi qui était la voix de Dieu, disant aimez-moi, aimez les autres. Ils avaient détaché la loi de Dieu, ils en avaient fait un code impersonnel. Ils avaient séparé les commandements de manière atomiste, comme des petits atomes qui courent partout, qui n'ont rien à voir enfin, les uns avec les autres. Et donc, ils avaient un truc complètement raide, complètement stérile, qui n'avait pas forcément d'amour. Tu pouvais obéir à tous les commandements sans chercher le bien ni de l'autre ni de Dieu, mais seulement chercher à toi être vraiment bon, n'est-ce pas? Être méritant. Mais vous faites ça aussi, vous tous et moi. J'ai ici un truc qu'on appelle un Fitbit. Est-ce que vous avez jamais vu un Fitbit? Peut-être que vous avez remarqué depuis 3 semaines que j'ai quelque chose sur la poignée que je n'avais pas avant. Est-ce que quelqu'un a remarqué? Ah oui, ah, toi Claudine, là, hein? J'aurais dû m'en douter. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. C'est ma femme qui m'a obligé de porter ça. Elle me l'a acheté pour mon anniversaire. Alors, un Fitbit, c'est un petit bracelet avec une petite pile et puce dedans qui enregistre tous mes pas et mes mouvements. Et le but de ça, ma femme s'inquiétait parce qu'elle disait je travaille trop dans mes livres et je n'avais pas assez d'exercice physique. Donc ce truc, ça me dit combien de pas j'ai pris chaque jour, combien de minutes très actives j'ai eu dans la journée. Parfois, j'ai pas eu de 1 minute là. Tu vois, marcher, ça ne compte pas. Il faut aller vite. D'accord? Donc ça, quand les gens portent cela, ma belle-sœur, on a, hein, c'est pour ça que c'est sa sœur. Donc en quelques mois, après avoir acheté ça, ma belle-sœur a perdu, je sais pas, 15 kilos? 15 kilos. Quand on l'a vue il y a quelques semaines, on s'en revenait pas. Elle était complètement différente. Et ma femme a dit, ah, j'achète ça pour mon mari. Voilà. D'accord. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que j'ai un grand désir d'être en forme physiquement. D'accord? Ça, c'est, j'ai toujours être sportif, etc. Je sais que c'est important et ça me tient à cœur. OK? Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai remarqué qu'après quelques jours, parce que ça marche avec le téléphone portable. Tu mets le téléphone là, il communique et tu regardes sur le téléphone portable et il te dit combien de pas tu as fait jusqu'ici dans la journée. Alors, je me suis pris en flagrant délit. Alors, j'étais en train de vérifier plusieurs fois par jour, juste pour savoir si j'étais arrivé au chiffre magique de 10 000 pas. Parce que ça, c'est le but. Quand tu arrives à 10 000 pas, le truc vibre. Et sur ton phone, félicitations, tu as eu le... D'accord? Ok. Maintenant, ma mentalité a changé. Au lieu de vouloir être en forme, je voulais juste le chiffre de 10 000. Je vous assure. Parce que quand j'avais 9 270, Ce qui veut dire que j'ai eu une... Je me gardais bien en forme. Ça, je m'en fiche. Je veux les 10 000. Les 10 000. Alors, ça veut dire que j'ai laissé de côté le vrai but du truc, être en forme, et je me focalisais sur le chiffre. C'est ça, le moralisme. Tu laisses de côté le vrai but de la loi, qui est d'aimer Dieu et de chercher le bien de le prochain, et tu fais ce qui est bien, tu as le chiffre. Oui, j'ai fait 3 bonnes œuvres aujourd'hui, j'ai aidé 3 dames à traverser la rue, mais tu ne l'as pas fait pour les aider ou parce que tu les aimais. Tu voulais chiffre 3. D'accord ? Vous voyez notre problème ? Ça, c'est très, 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 très grave. C'est très grave. Oui, j'ai prié 30 minutes. C'est bien, je peux aller maintenant. N'est-ce pas ? J'ai fait mes 30 minutes de culte personnel. Mais est-ce que tu as aimé Dieu ? Est-ce que tu l'as cherché pendant que tu priais ? Ah, là, je pensais plus à moi et mes 30. Et c'est pour ça que Jésus choisit ces deux commandements. Aime le Seigneur ton Dieu. Il n'y a rien de spécifique dans ce commandement, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de chiffre. Il y a le principe derrière tous les chiffres. Et aime ton prochain comme toi-même. Alors, je vais sauter le point 2 parce que j'étais un peu plus lent que ce que je voulais. Mais maintenant, je voudrais vous dire une petite chose de plus au sujet du premier commandement, d'aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, etc. Dans le verset en hébreu, dans Deutéronome, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » 3 choses. Jésus en ajoute un 4e. Il dit « De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Est-ce qu'il a déformé le verset ? Non, il a expliqué un peu le verset. Parfois, les gens veulent que chacun de ces 4 choses soit des facultés. Oui, il faut aimer Dieu avec sa pensée, ça veut dire qu'il faut penser chrétiennement. Il faut aimer Dieu avec son cœur, ça veut dire que mes émotions doivent être engagées dans mon... Et je ne pense pas que Jésus avait ça en tête. C'est joliment dit. C'est malin. Mais ce n'est pas du tout le but de ce verset. Jésus ajoute un 4e, non pas parce que Deutéronome a loupé, il fallait aussi parler de cette faculté, cette 4e faculté. Non, la raison pour tout cela, c'est que les termes sont multipliés pour une raison, pour vous dire, aime Dieu de tout ce que tu es. Ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force, c'est ça simplement. Jésus est en train de dire, le plus grand commandement est un commandement totalitaire. Dieu t'aime sans réserve, avec tout ce qu'il est. Il dit, réponds comme ça à moi. C'est joli ça, n'est-ce pas? Avec tout ce que tu as, aime Dieu. Ça nous amène loin des chiffres, n'est-ce pas? Ça nous amène très loin de qu'est-ce qui est le plus lourd pour que je puisse faire ça, même si je laisse côté. Non, de tout ton cœur. Tout le temps, tout ce que je suis. Affection, allégeance, chercher sa gloire, agir. Il est tout important. Je ne peux jamais l'oublier. Fais tout pour lui. Il est mon Dieu. Il est Dieu. Voilà. Mais le deuxième commandement est comme lui. Et là aussi, les gens font des erreurs. Quand Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qu'est-ce que ça veut dire? Je veux soutenir que ça veut dire la même chose, de manière totalitaire. Mais je vais vous expliquer d'abord ce que ça ne veut pas dire, parce que les gens pensent souvent. Parfois, les gens disent que donc, on dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Et je retrouve mes notes, attendez. Oui. Parce que c'est une motivation. C'est-à-dire, puisque tu t'aimes toi-même, Tu vas aimer ton prochain.
Non. Souvent, les gens qui s'aiment le plus pensent pas aux autres. Donc, c'est pas une motivation. Aime ton prochain comme toi-même, c'est pas une restriction, parce que parfois les gens disent que Jésus voulait dire, bon, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu dois faire pour ton prochain seulement ce que tu dois à toi-même. Donc, heureusement, je peux délimiter ça un peu. Parfois, les gens disent aussi, et le plus couramment, ils disent que c'est une méthode pour aimer. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire si tu veux vraiment aimer ton prochain, apprends à t'aimer. D'accord? Est-ce que tu as entendu ça? Parce qu'une personne qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas aimer les autres. Et là, on inverse le commandement. Et ça devient un commandement de t'aimer, n'est-ce pas? Pratiquement. Je n'en disconviens pas au sujet de si quelqu'un se hait, il a des problèmes. Mais ce n'est pas le sens de ce commandement. Le problème avec cette idée de méthode, c'est que quelqu'un qui se met à dire, bon, je dois apprendre à m'aimer, comme ça je vais aimer les autres, ça ne marche tout simplement pas. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ton point focal, c'est toi. Et on doit s'oublier. Il y a un principe divin qui vient par le Saint-Esprit en quelqu'un et qui l'amène à aimer les autres. Ce n'est pas une méthode humaniste, philosophique, moraliste pour « Ah, j'essaie de m'aimer et puis ça va rebondir sur les autres. » Pas du tout. Pas du tout. C'est l'amour de Dieu en nous et pour nous qui change notre cœur et les rend expansifs. Donc ça, c'est quand les gens se convertissent, vous voyez tout de suite que la première chose que je vois en quelqu'un qui se convertit vraiment à Jésus-Christ, c'est que là, il commence à regarder les autres et à vouloir vraiment qu'ils soient bénis. Tout de suite, je dis, le Saint-Esprit est dans cette personne. Il est changé. Maintenant, je reviens à mon point principal pour cela, et là je vais aller à ma conclusion après. Je voulais vous dire que quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quelque chose de vachement simple. Ça veut dire de la même manière où l'homme naturellement et spontanément cherche de tout son cœur son propre bonheur, tout le temps, n'est-ce pas? Alors sois comme ça avec les autres. De manière spontanée, tout le monde veut son bien, son propre bien. Alors, désire le bien de l'autre et cherche-le de la même manière. Alors, si tout le monde faisait ça, le monde changerait, sera révolutionné tout de suite, n'est-ce pas? Si moi je cherchais ton bien autant que mon bien, et je le voulais vraiment autant que mon bien, alors plus de guerre, plus de divorce, plus de problèmes entre enfants et parents. Entre nations, là, ce serait la fin de tout ça, n'est-ce pas? Oui. Mais donc, vous voyez que dans ces deux commandements, on a quelque chose de sans réserve, de sans limite, de totalitaire, et de totalitaire dans l'amour, et c'est absolument formidable. Mais ça nous écrase complètement aussi. Vous sentez un peu écrasé? Vous dites, oh là là, parce que là, si on faisait de la loi ce que l'esprit faisait, là on peut le manier, on peut le gérer. On dit, je fais le plus lourd, je laisse un peu de plus. La loi devient gérable, j'arrive à garder la loi, j'arrive à faire les 10 000. N'est-ce pas? Mais si sa loi c'est d'aimer de manière sans limite et sans réserve, là ça me met face à moi, je n'ai même pas commencé à bien faire. Et c'est ça que Jésus voulait produire chez le scribe et chez nous. D'accord? Alors, le scribe, il répond à Jésus et il dit, et d'ailleurs je dois vous dire qu'on n'aime pas cette partie de la loi, n'est-ce pas? Quand ça vient nous exposer pour ce que nous sommes. On veut réduire la loi pour qu'on ne soit pas tellement inconfortable en face d'elle, n'est-ce pas? Mais Jésus ne permet plus qu'on fasse ça. Il donne à la loi toute son ampleur par deux commandements et on est tous devant une chose sans limite.
Et donc, le scribe lui dit dans le verset 32, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. L'atmosphère change. Au lieu de débat où Jésus est en train de gagner, on a quelqu'un enfin qui a un peu de sincérité, qui vient poser une question, et Jésus répond de manière à fermer la bouche de tout le monde. N'est-ce pas? Personne n'ose plus poser une question parce que la loi a cette faculté de fermer la bouche et de nous montrer que nous sommes tous capables, coupables. Personne n'ose plus poser une question. Et Jésus félicite le scribe. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est l'amour qui est vraiment au fond des choses et pas seulement les rituels, les sacrifices, les holocaustes. Là, il y a déjà un travail de Dieu en lui, il est en train d'être amené vers le royaume de Dieu, mais il n'est pas dans le royaume de Dieu. Jésus l'encourage et l'humilie au même moment. Il dit « Très bien, tu n'es pas loin. » Mais « tu n'es pas loin » veut dire que tu n'es pas dedans. Cet homme n'est pas sauvé. Il n'est pas à Dieu. Pourquoi? Parce que savoir ce qu'il faut faire, ça ne vous sauve pas. Plus vous savez ce qu'il faut faire, plus vous savez que vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas être sauvé par une loi, parce qu'une loi ne fait qu'une chose, demander, exiger. Et ça vous met de plus en plus dans l'échec, parce que vous ne rendez pas tout ce que la loi exige. Si vous voulez être dans le royaume de Dieu, il vous faut autre chose, oui ou non. Et il vous faut autre chose. C'est très bien pour ce scribe qu'il a compris. Et je crois que Jésus dit qu'il n'est pas loin parce que, écoutez bien, puisqu'il a compris que la loi n'était pas quelque chose de gérable, juste les chiffres, les holocaustes, puisqu'il a compris que c'était totalitaire et sans limite, ce scribe comprenait évidemment de plus en plus, là je n'obéis pas. Qui peut penser qu'il a obéi s'il comprend la loi de la bonne façon? Donc c'est pour ça que Jésus dit, tu n'es pas loin. Parce que la loi est en train de t'amener à l'endroit où tu sais, je ne suis pas bon. Je ne réponds pas à ce que Dieu veut. Et les holocaustes, ça ne peut pas m'arranger l'affaire. Parce que c'est quelque chose de tellement grave que j'ai besoin de quelqu'un qui peut faire ce que je n'ai pas fait. Qui peut aimer Dieu de tout son cœur. Qui ferait ça à ma place? Ah, l'homme parfait, Jésus-Christ, vient justement aimer le Père de tout son cœur jusqu'au point de mourir par amour pour le prochain et pour le Père. Et il a fait parce que je ne l'ai pas fait. Il a rendu à Dieu ce que je n'ai pas rendu. Comment est-ce que tu vas aimer, toi? Seulement si tu es dans le royaume. Ce n'est pas aimer pour arriver au royaume, c'est que Dieu, par sa pure grâce en Jésus-Christ, t'amène par le pardon gratuit dans le royaume. Une fois que tu es choyé par la grâce de Dieu, pardonné de tous tes péchés, Dieu t'aime et te met en règle avec lui. Là, ça crée un changement dans ton cœur, tu es tellement reconnaissant pour ce Dieu d'amour, tu commences à aimer lui et les autres. Je vous lis juste le verset qui vous trouve. Pour nous, nous l'aimons parce que il nous a aimé le premier. Vous ne pouvez pas aimer à moins d'avoir été aimé sans aimer. N'est-ce pas? Lorsque je ne cherchais pas Dieu, lorsque je ne l'aimais pas, il mourait pour moi sur une croix, par amour. Il m'a ouvert les yeux pour le voir. Et quand je l'ai vu, qu'il m'aimait comme ça, j'ai commencé à l'aimer en retour et à vouloir l'aimer, lui et tout ce qu'il a créé sans réserve. Ça c'est, si tu peux le dire, ça c'est être dans le royaume et avancer de plus en plus dans ce monde d'amour dans Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous humilie, bien. On n'a plus peur de ça, n'est-ce pas, les frères et sœurs? On n'a plus peur de nous voir complètement pécheurs, coupables. On veut se voir tel qu'on est. C'est ça le signe que vous êtes dans le royaume. Et si vous ne voulez pas voir, si ça vous rend un peu vexé, c'est que vous n'êtes pas dans le royaume. Quoi que vous disiez, quelle que soit votre expérience du passé, vous n'êtes pas dans le royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, à eux sont le royaume de Dieu. Bienheureux ceux qui se lamentent de leur péché, ils seront consolés. Et si vous êtes là et vous êtes en train de dire, oui, ça c'est moi, j'ai du chemin à faire, ça c'est un bon signe, n'est-ce pas? Mais sachez, chers amis, que Dieu vous aime de tout son cœur, de manière totalitaire. Et c'est cet amour qui vous libérera pour l'aimer et pour aimer les autres. Nous allons donc laisser la place à Joël pour le reste, pour la suite du titre.